بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شفيع الإسلام نغمسي الله رب العزة qui nous donne la possibilité de nous asseoir quelques instants pour étudier le dîn d'Allah, pour étudier son dîn et pour essayer de travailler un petit peu, d'approfondir notre iman sur les branches de la foi, les différents arcanes de l'iman. Et nous nous étions arrêtés il y a quelques temps sur al-iman bil-yawm al-akhir. Si vous vous rappelez, on avait parlé des étapes de l'au-delà. Et les deux derniers points qu'on avait abordés, ça remonte, hein, c'était le 13 octobre, ça fait un mois exactement. On avait parlé de deux points, que parmi les étapes de l'au-delà, le fait de croire au compte, au hisab, le moment où Allah Azza wa Jal va juger chaque personne pour l'intégralité de ses actions, de ses paroles, de ses a'mal, tout ce que la personne a pu faire comme bonne action ou mauvaise action dans ce dunya. Donc on avait expliqué comment est-ce que le hisab a lieu et comment se déroule l'entretien avec Allah Azza wa Jal. On avait vu ensuite que parmi les croyances en l'au-delà, il y a le fait de croire que notre prophète alayhi salatu wassalam a reçu de la part d'Allah Azza wa Jal un hawd, c'est-à-dire un bassin qui s'appelle Al-Kawthar, et que notre prophète alayhi salatu wassalam y invitera les croyants le jour de Qiyamah. On avait donné une description, on a essayé de donner une description de la beauté de ce bassin, et on avait vu que la personne qui aura cet honneur de boire de ce hawd de Kawthar, la yadhma'u ba'daha abada, jamais plus la personne ne va ressentir la soif ou une quelconque difficulté. Et on avait conclu, en expliquant ces deux points avec plus ou moins pas mal de détails, on avait conclu que subhanallah, vous voyez que par rapport aux anciennes explications, au programme qu'on avait fait les lundis d'avant, qui décrivait comment le qiyama, la résurrection, c'est quelque chose de difficile, de terrible, qui est qualifié dans le Coran comme inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim, la destruction du dunya, mais tout ce qui vient après c'est de plus en plus dur. Yani chaque étape de l'au-delà, ce sont des étapes de plus en plus difficiles à supporter, mais que dans ces moments de chaos, il y a quand même de l'espoir. Il y a quand même quelque chose de magnifique à obtenir et qui se construit dans ce dunya. Ces choses magnifiques qu'on peut obtenir, mes chers frères en islam, ce sont les 7 places qui sont sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, comme on avait expliqué ça en pas mal de séances. Parmi ces choses qui sont magnifiques, que nous devons essayer de construire dans ce dunya pour obtenir, pour l'obtenir, pour obtenir ses fruits le jour de Qiyamah, c'est le fait de recevoir, avoir cet honneur, de recevoir son livret d'action de la main droite le jour de Qiyamah. C'est lorsqu'un croyant, il a un hisab en yassira. Allah Azza wa Jal pardonne ses erreurs le jour des comptes, que même si la personne constate qu'il a encore des péchés cumulés dans son livret de compte, mais qu'Allah Rabbul Izzah affirme, Allah Rabbul Izzah atteste qu'il a pardonné, qu'il a absous les péchés de cette personne. Parmi, subhanallah, les choses magnifiques qu'on peut essayer d'obtenir dans ces moments de chaos, de l'au-delà, c'est d'être invité près du hawd, le kawthar de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Qiyamah. Donc même dans ces moments terribles que sont les étapes de l'au-delà, il y a des places réservées aux élus, aux gens qui sont proches d'Allah Azza wa Jal. Et comme on avait abordé ces différentes thématiques, on a dit le but c'est pas juste de savoir qu'est-ce qui va se passer. Le but c'est bien sûr de prendre conscience, mais de se poser la bonne question, qu'est-ce que j'ai préparé pour cette étape ? Est-ce que je suis prêt, là, à ce moment précis, est-ce que je suis prêt pour cette étape? On va demander les personnes qui sont un peu éloignées. On se rapproche, parce que plus on est loin, plus il faut parler fort. Et si on est proche, alhamdulillah, la voix ne se perd pas. C'est-à-dire, le but, ce n'est pas juste de savoir que de l'au-delà, l'au-delà est composé de telle étape, telle étape, telle étape. Non, on ne va pas la prendre comme une leçon, comme une leçon par cœur. Là, wallah. Le but, c'est de connaître, bien sûr, mais c'est surtout se remettre en question. C'est être capable de se remettre en question. Quand on voit le hisab, qu'il y a des gens qui sont appelés auprès du tribunal d'Allah Azza wa Jal, parce qu'ils ont bien agi dans ce dunya, parce qu'ils ont toujours caché les défauts de leurs frères en islam, ils ont toujours été de bons frères musulmans, le jour de Qiyamah, Allah Azza wa Jal dit, comme tu as caché les défauts de ton prochain de ce dunya, de ce monde, je cache tes défauts le jour de Qiyamah. C'est-à-dire, moi maintenant, je dois méditer, cogiter, réfléchir sur cette phrase, sur ce hadith, et me dire que qu'est-ce que je suis prêt à faire pour obtenir ce grade le jour de Qiyam? C'est exactement la réaction du croyant qui est dans la phase de Talabul Ilm. Quand on parle des vertus de Talabul Ilm, l'apprentissage de la science religieuse, ce n'est pas juste un apprentissage pour cumuler du savoir. Ce n'est pas juste un apprentissage pour dire que je connais, je mémorise, j'ai appris telle chose, je connais tel livre, j'ai appris avec tel chougur, tel professeur. Là, wallah, c'est une science qu'on va acquérir dans le but de mettre en pratique et de propager, de l'enseigner aux autres. C'est ça le talabul ilm, c'est ça le fa'ida, c'est ça l'avantage qu'il y a dans la connaissance religieuse. Donc de la même façon, quand on apprend ces étapes, par exemple quand on parle de le Hawd al-Kawthar, c'était vraiment une description magnifique, quand on voit les hadiths qui expliquent la beauté, la couleur de l'eau, la douceur de cette eau-là, subhanallah, et le nombre de coupelles qu'il y aura pour boire de ce bassin, aussi nombreux que les étoiles dans les cieux. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire pour mériter ma place près du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jour de Qiyam. Parce que ce n'est pas un haqq pour chaque croyant. Ça, il faut que ce soit bien clair. Ce n'est pas un droit pour chaque musulman que de boire au bassin du Kawthar. Il y a des gens qui auront cet honneur. Il y a des gens qui, à cause de leur péché, ne pourront pas accéder au bassin du Kawthar, qu'Allah nous protège. Donc moi, je dois me poser la question, me remettre en cause, me dire que ben voilà, qu'est-ce que je vais préparer comme amal, quelle doit être ma relation, mon amour, mon attachement pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour sa sunnah, comment doit être mon assiduité de la mise en pratique de la sunnah, faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, aimer ce qu'il aimait, s'éloigner de ce qu'il s'éloignait, s'éloigner de ce qu'il n'aimait pas, ce qu'il déconseillait, faire en sorte que ma vie devient véritablement un copier-coller. Je ne voulais pas utiliser ce terme, mais vraiment on prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple, on fait tatbiq de sa sunnah pour avoir cet espoir, al-amal, pour avoir cet espoir que le jour de Qiyama, Allah Rabbul Izza m'invite, nous donne la possibilité d'aller près du Hawd al-Kawthar pour avoir du fleuve, du bassin que le prophète alayhi salatu wa sallam a obtenu de la part d'Allah Azza wa Jal. On va voir ce soir une autre étape du Qiyama, c'est al-iman bil-sirat. On a entendu, tout le monde a entendu le terme sirat. Comment est-ce que vous traduisez sirat? Hein? Le chemin. C'est vrai qu'en arabe, c'est vrai, l'arabe est une langue très riche. Sirat, ça veut dire chemin, bien sûr. Quand on dit guide-nous vers le droit chemin, il dit non, sirat al-mustaqim, bien sûr. Mais quand on parle de as-sirat, le jour de Qiyama, c'est l'équivalent. Mais il n'y a pas vraiment de terme, de traduction fidèle, parce que jamais une langue ne sera aussi précise d'acquérir que la langue arabe. Le sirat, en parlant de l'au-delà, c'est pas un chemin. Parce que quand on parle d'un chemin, c'est qu'on peut y aller en famille, en voiture, en vélo. Non, c'est un pont. Et même quand je dis le mot pont, ça ne représente strictement rien. Parce que quand je vous dis pont, vous allez penser le pont. Quand on pense à le pont Vincennes, ou alors le pont, je ne sais pas quel genre de pont, quel nom de pont encore il y a. Non, c'est exactement quand on parle de Assur, An-Nafkhu fi Assur, quand on dit que l'ange souffle, l'ange Israfil souffle dans la. On a toujours appris quand on était petit de la trompette. Mais trompette, c'est un petit instrument de musique, ça. C'est ridicule. C'est une corne. Assur, c'est une corne qui est gigantesque. Mais même quand on dit une corne, on va se figurer quelque chose. Mais ce n'est rien par rapport à la réalité de Assur. Tout ça, ce sont, on appelle des larv mushtarak, des termes qui sont propres à l'homme, mais qui ont une autre connotation dans le monde du raïb, dans le monde de l'invisible. Donc, de la même façon, quand on parle de sirat, c'est un pont. Mais ce n'est pas un pont qui est large. Là, wallah, le prophète alayhi salatu wassalam, avant d'expliquer le concept, le prophète alayhi salatu wassalam donne la description, dit que c'est, en ce sens, c'est un pont qui est mansoub, qui est étendu sur le jahannam. Donc déjà, on a une idée que le sirat, subhanallah, c'est une étape. On réalise que le sirat, c'est une étape qui est cruciale. C'est une étape décisive. Parce que c'est le dernier moment. C'est le dernier moment où les pieux et les pécheurs seront côte à côte ensemble. C'est le dernier moment où les pieux et les pécheurs vont se côtoyer. Après ça, ils ne seront plus ensemble. Pour la simple et bonne raison que les pécheurs endurcis ne franchissent pas cette étape. Donc, première chose à retenir. Deuxièmement, c'est un pont qui sera emprunté uniquement par les croyants. Ah, ça, on va garder en dernier. D'abord, on décrit, au moins on va comprendre l'impact de cette information. Le prophète, alayhi salatu wassalam, explique que c'est un pont. Dans certaines sources, il dit qu'il est plus fin qu'un brin de cheveux, plus tranchant qu'une lame d'un sabre, d'une épée. Et notre prophète, alayhi salat wa salam, explique que chaque personne, chaque croyant, doit passer sur ce sirat pour accéder au Jannah. Chaque croyant, c'est-à-dire que je ne vais pas me dire que oui, mais ça c'est pour les autres ça. Moi non. Quand par exemple, un médecin la protège, ou alors on entend une publicité à propos du cancer ou je ne sais pas quoi, je dis oui, mais ça c'est pour les autres ça. Moi, je ne sais pas ça, moi, Inch'Allah, on n'a pas de problème. Moi, je suis en bonne santé. C'est-à-dire qu'on voit les problèmes toujours pour les autres. Mais le sirat, c'est un problème. Le sirat, c'est une étape, mais c'est un gros problème. Et il n'y a pas une personne qui pourra échapper à cette étape qui est le passage sur ce pont suspendu sur le Jahannam et qui mène vers le Jannah. C'est le sirat qui mène vers le Jannah. Et le prophète alayhi salat wa sallam explique qu'il y a des gens qui vont franchir ce sirat. Alors, ils vont franchir. Alors là, on va passer une deuxième étape. Quel est le critère de facilité pour franchir le sirat? Parce qu'il y a des gens qui vont le franchir à la vitesse de l'éclair. Il y en a d'autres qui vont le franchir, dans certaines sens, on parle comme le vent. Le vent, c'est quelque chose d'extrêmement rapide. Certaines personnes vont le franchir comme un cavalier, un qui galope sur un cheval. D'autres vont le franchir de façon assez rapide, d'autres lentement. D'autres vont marcher et trébucher. D'autres vont y aller, trébucher, marcher à quatre pattes. Et à un moment donné, ils vont échouer. Et c'est quoi l'échec? Quel est le synonyme de l'échec sur le sirat? Quand on parle d'échouer, qu'Allah nous protège, qu'Allah protège chaque personne de cette assemblée, et nos femmes et enfants, nos familles à la maison. Échouer sur le sirat, c'est synonyme de tomber dans le Jahannam. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue. On a l'étape de l'au-delà où le sirat démarre. Et son aboutissement, c'est le Jannah. Et au-dessous, il y a le Jahannam. Basse, il n'y a rien. Il n'y a aucune autre issue. C'est-à-dire, soit tu le franchis jusqu'au bout et tu arrives dans le Jannah. Ou alors tu ne le franchis pas et tu tombes dans le Jahannam. Et les ulama, les muhaddithin expliquent une parole qui est magnifique. Une parole que moi-même, par les mutala, je l'ai découvert il y a quelques semaines et ça m'a profondément marqué. Il dit « Man kana musari'an fil khayrat fil dunya » كَانَ سَرِيعًا فِي الْمَشِّيَ عَلَى هَذَا الصِّرَاطِ. C'est-à-dire celui qui s'empressait d'accomplir de bonnes actions de ce dunya, celui qui cumulait les bonnes actions et qui faisait en sorte d'en faire le maximum, et qui s'empressait de l'accomplissement des bonnes œuvres, cette personne va s'empresser de franchir le sirat. C'est-à-dire, sa vitesse, elle va dépasser celle des autres. Ça, c'est le critère de réussite. Basse. Iman a'mal saliha. Le critère, ce n'est pas la couleur. Lui, il est blanc, lui, il est noir, lui, c'est un asiatique. Lui, il est le nez tordu, le nez rond, lui, n'a pas le dent. Là, Allah, Allah Rabbul Izzah, ne regarde pas les traits physiques. Parce que c'est Allah qui a créé. S'il y avait un modèle de beauté physique, ça pourrait être simple, bien sûr. Mais s'il fallait avoir le même physique que le prophète, Allah nous aurait tous créés avec un physique identique. Donc, critère physique, Allah ne regarde pas. Allah Rabbul Izzah ne regarde pas la situation financière de la personne de ce dunya. Parce que quand vous arrivez là-haut, là, le médecin, l'avocat, l'agriculteur, le chômeur, sont au même niveau. Parce que le prophète, alayhi salat, c'est un hadith de base qu'on doit bien intégrer. Ça, c'est les hadiths qui nous montrent les transitions d'étapes. C'est-à-dire, quand tu passes par cette étape-là, tu franchis un autre monde. Tu passes du monde dunya au monde du Akhira, qui est un monde où ce qui va régir le Akhira, ce sont les règles du Raïb, de l'invisible. Dans ce dunya, qu'est-ce qui régit le monde du dunya? Il faut être réaliste. L'argent, la beauté, l'amour, pour ne pas dire de l'autre sens, parce que vous allez croire que je regarde la série, les diplômes, et ainsi de suite. Tu es beau, tu as de l'argent, tu as un bon travail, tu as une belle maison, les critères de réussite, maujouda, sont en toi. Tu seras respecté, tu seras considéré comme quelqu'un qui a réussi son intégration. Tu as quelqu'un de bien. C'est un gars qu'il faut suivre sur Twitter et dans la vie en général. Quand on franchit cette étape, quand on passe cette transition, on va rentrer maintenant dans le monde du Akhira. C'est d'autres critères. Et tout ce qui comptait pour nous de ce dunya n'ont plus aucun intérêt dans le monde suivant. En fait, quand on parle du monde suivant, ce n'est pas une étape, ben c'est le deuxième monde. C'est le monde de l'éternité. Parce que les règles du monde de Al-Barzakh, de la tombe, ou des différentes étapes de la résurrection, ce sont les mêmes règles. Les critères de réussite, ce sont exactement les mêmes. Ce sont les mêmes choses qui sont matroubes, qui sont requis, qui sont demandées. Alors, le hadith de transition, c'est quoi? Et moi, j'aime bien ce hadith. C'est lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, tout le monde connaît ce hadith déjà, c'est un rappel. Lorsque le prophète salam explique que lorsqu'on enterre une personne, lorsqu'on l'emmène au maqbara, au cimetière pour l'enterrer, vous connaissez le hadith, ceux qui bougent la tête connaissent. Yatba'uhu, combien de choses le suivent? Salatha, sa famille. Madame ne vient pas. Les enfants, les neveux, les amis, les voisins, pleurer, dire ah, papa il est mort, Allah, comment et tout. La famille. Ensuite, c'est bien. C'est bien le suivre. Et c'est amal. Quand on dit amal, c'est avec la foi, bien sûr. La foi, les bonnes actions. Lorsque la personne est enterrée, tout le monde a déjà vu un enterrement. Tout le monde a assisté à un enterrement, j'espère. Ça, il faut le faire. Il faut. Important. Ça travaille, iman. Ça nous ramène vers haqiqa, vers la réalité. Ça nous fait comprendre que PSGOM, là, c'était pas l'événement de ce mois. C'est pas la chose qui était le plus important pour moi. Là, wallah, que PSG, Chelsea, ça n'a pas d'intérêt. Que tout ça c'est des choses qui sont. Ça fait même pas partie des zinatul hayat ad-dunya. Même pas, c'est bien le dessous. Tout ce que nous admirons de ce dunya, en finalité, ce n'est que fana. Fana, c'est-à-dire des choses qui vont disparaître. Parce que lorsque je vois monsieur un tel qui roulait dans telle voiture, telle Mercedes, qui avait autant de biens, qui était respecté, quand les gens étaient regardés, ils étaient dit, Al Padre, ça c'est le boss. M'a appris ça avec Zélé Madrid, ça. Ils appellent un professeur, moi, Al Padre, qui n'est pas pourquoi d'ailleurs. Bref, respect, et parce qu'il est riche, parce qu'il a une notoriété, c'est quelqu'un qui a construit, c'est quelqu'un qui embauche 250 personnes, bref, c'est quelqu'un. Quand on le voit maintenant, il mettait, qu'est-ce qu'il mettait comme linge? Qu'on appelle le vêtement là, monsieur, c'est un cheval avec un. Ralph Lauren. Il paraît le Ralph Lauren là, en termes de prix, ça dépasse tout ce que nous on a connu quand on était jeunes. Bref, il mettait Ralph Lauren, il mettait pantalon, je sais pas quoi, il mettait chaussures, je sais pas quoi. Khair, c'était l'homme le mieux habillé, le plus luxueux. On regarde pas le bout quoi il vaut. Depuis son chaussette jusqu'à son cheveu, il avait pour 1000 euros. Il a 1000 euros, il marche, il monte dans le bus, il descend. Bref, on le voit, Allahu Akbar, entre trois pièces de tissu blanc. Premier prix, 5 euros le mètre carré. Je ne sais pas comment on appelle, le mètre. Rien d'autre. On le pose dans la terre. C'est pas qu'il dit pour lui faire un cercueil nacré avec de l'or, des pierres. Là, Abadan, ça c'est dans d'autres qaums, dans d'autres religions, on fait ça. Un cercueil en chêne, je ne sais pas quoi, qui coûte 5-6 000 euros. Nous, on n'a pas besoin de tout ça. Parce qu'on ne gaspille pas l'argent. Même pour un défunt, on ne gaspille pas l'argent. On va faire un petit truc avec des planches. Et ça aussi, ça n'a pas vraiment d'importance. À même le sol. Parce que quand on jette la terre, qu'est-ce qu'on dit? Minha, khalaqnakum, wa fiha, nu'idukum, wa minha, dites-moi, nukhrijukum, taratan, ukhra. On le dit à chaque fois qu'on enterre quelqu'un, on dit, on a été créé de ça. On retourne dedans et c'est de là qu'on ressort après. Yani, réaliser que quand je meurs, quand on voit quelqu'un mourir, il est à même le sol. Et qu'est-ce qu'on fait? On jette la terre sur lui, on l'enterre. Qu'il soit riche, pauvre, blanc, noir, chef d'entreprise, chômeur, on enterre de la même façon. Le rite est le même. La salat janaza, c'est le même. Les ad'iya, les doigts qu'on fait, c'est pareil. Il n'y a pas salat janaza du riche, salat janaza du pauvre, là wallah. Salat janaza du blanc, salat janaza du noir, là wallah. Salat janaza de monsieur le patron, le PDG, et salat janaza de monsieur tout le monde, là. Parce que nous sommes tous monsieur tout le monde pour Allah. Nous sommes des mu'mines, des croyants. Donc quand on voit enterrer une personne, surtout quand c'était quelqu'un de proche, wallahi, ça fait bouger des choses à la tête. Des choses qui ne bougent pas en temps normal parce que on est tellement plongé dans la spirale infernale de ce dunya qu'on est comme quelqu'un qui est immergé dans l'eau. Il n'arrive pas à sortir la tête pour voir la réalité du arrière. Il est trop plongé dedans. Mais quand quelqu'un meurt, c'est pour ça que les ulama disent que la mort d'un proche est un tela, une épreuve pour les gens qui restent. Mais c'est également une leçon de foi. Kafa bil mauti, il n'y a rien de plus, il n'y a rien d'aussi suffisant comme rappel que al maut, que la mort. C'est le plus grand rappel. Ça remplace des heures de discours. Ça remplace des livres que vous pouvez lire sur l'au-delà. Là, vous voyez quelqu'un mourir, ça vous fait réaliser vraiment quel est le masir du insan. Quelle est la destination de l'homme. Et en plus, si vous vous assistez depuis l'étape où on fait le roussel, le bain mortuaire, vous vous rendez compte que cette personne-là, comment il faisait 1m80, 92 kilos, c'était un colosse. Il, mashallah, c'était quelqu'un qui imposait du respect. Et là, il est inerte. On veut le jeter côté droite, on le jette. On le balance côté gauche, on le balance. On le met assis. Excusez-moi, akramakumullah, il ne peut même pas contrôler les impuretés qui sortent de son corps. On le jette sur le ventre, il est sur le ventre. On fait ce qu'on veut de lui. Et puis on va le mettre dans la terre, il ne peut rien dire. C'est ça, masir insan. Ce corps que j'entretiens, ce corps que j'essaie d'embellir pour plaire aux femmes, pour avoir l'air beau et ainsi de suite, ce corps, il va pourrir dans la terre. Donc ça, c'est le plus grand, la plus grande des durous, la plus grande des leçons. On revient, notre hadith de transition que j'aime beaucoup, c'est lorsque le prophète alayhi salatu wassalam avait enterré un sahaba. Hein? Sahaba. Il avait dit que sachez, oh mes chers compagnons, que lorsqu'une personne est enterrée, il y a trois choses qui le suivent. C'est bien, c'est sa famille, c'est bien et ses actions. Et lorsque la personne est enterrée, c'est-à-dire que c'est terminé, sa famille retourne. Ses biens retournent, c'est-à-dire se séparent de lui, et la seule chose qui reste, ce sont ses a'mal. C'est pas un hadith qui sort de l'ordinaire, ça. C'est pas un hadith où on vous explique des choses incroyables. Qu'est-ce qui existe dans le quatrième ciel, des choses qui dépassent l'entendement. Non, c'est des hadiths basiques. C'est des hadiths qui construisent la foi. Mais moi, j'appelle ça hadith de transition. Parce que quand la personne est emmenée dans la tombe, là, il fait toujours partie du monde des vivants. Lorsqu'il a dépassé le niveau du sol, lorsqu'on le pose, khalas, il ne fait plus partie de vous. Il ne fait plus partie de votre alam. Il ne fait plus partie de notre monde. Il fait partie du monde des amwat. Et il va vivre dans le monde du barzakh. Il est déjà dans le monde de l'au-delà. C'est fini. Il n'y a plus de relation entre moi et lui. Et quand il est donc, quand il descend au niveau zéro, en dessous de zéro, dessous de nos pieds, les règles changent. J'allais dire les règles du jeu. Les règles changent. Ces règles sont maintenant, la famille n'a plus d'intérêt. L'argent n'a plus d'intérêt. Et au contraire, quand une personne meurt, imaginez cette personne qui toute sa vie a travaillé, il a économisé de l'argent. Il n'a même pas consommé 10% de ce qu'il a accumulé. Il a laissé, mashallah, 45 000 euros de son compte. Économie depuis l'âge de 30 ans pour ses enfants. Et vous croyez que ses enfants, ils vont faire preuve de respect? Ils vont s'entretuer pour cet argent. Ils vont déjà faire ça. Ils vont manger, ils vont se déchirer. Combien de fois on voit des familles qui, après le décès du patriarche, le papa ou la maman ou le grand-père, les frères et sœurs qui ont toujours vécu avec Mohamba se déchirent. Pourquoi? Dunya. Je veux ça. Non, moi, c'est moi. Ça, c'est pour moi. Papa avait dit, votre famille s'en va. Vos biens, ils sont dilapidés. On ne pense plus à vous. On va penser à vous, Eid. Eid al-Fitr. Ah! L'année dernière, papa était encore là. Ah, il fait mal le cœur. Hein. Maman, on fait un tour à Kabestan, on nous lit un petit peu. Le cœur, il fait mal. Après, quand on va passer à table, on va manger, on va rigoler, on va parler du dunya. C'est comme ça. Il n'existe pas quelqu'un qui reste triste 50 ans. Ça n'existe pas. Parce que ce sont deux mondes parallèles. À un moment donné, les cœurs se séparent. Et vous savez, une autre étape, et là je vais vous choquer, où les cœurs se séparent, vous savez c'est où? C'est dans l'au-delà. Les cœurs se sépare encore plus. Parce que dans le verset Yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Personne ne veut plus voir la figure de l'autre. Le père ne veut plus voir son épouse, ses enfants et vice versa. Il y a déjà quand on passe de le monde en dessous, les cœurs là-haut se sont détachés. Quand on passe de l'au-delà, les cœurs sont tous séparés. personne ne veut plus voir son prochain. Pourquoi? Parce que les kullimri minhum yawma idin, ce jour-là, yawma idin sha'an, sha'nui yughni, parce que chaque personne en ce jour sera, c'est pas la traduction officielle, sera préoccupé par quelque chose de terrible. C'est quoi quelque chose de terrible? En commentaire, dit Nashrus Suhuf, lorsque les gens vont voir les livrets d'action qui commencent à être remis, distribués, la balance est posée, est installée, le sirat est visible, l'enfer est présenté à la terre de Mahshar, les gens ne vont plus penser à leurs proches, les gens seront angoissés, ils vont penser uniquement à Nafsi, Nafsi. Vous voyez, les règles du jeu ont changé. Même les règles concernant les sentiments ont changé. Je dis Qiyama, vous avez... Vous étiez marié avec madame, telle madame, 45 ans de mariage. On appelle ça noce de quoi? Pas de diamant, de je ne sais pas, d'émeraude, de je ne sais pas quoi. 45 ans de fidélité, de muhabba. Ou, il y a des couples comme ça, le mari passe pas à table si son épouse n'est pas là, et vice versa. Muhabba, ya, Allahumma, Allahumma, nous sommes aminou. Qu'Allah nous accorde ce muhabba de nos familles, inshallah. Mais le jour de Qiyama, ni l'épouse, ni le mari, premièrement, ne seront pas prêts à partager une bonne action. Et pire, deuxièmement, un serait prêt à réclamer son haq à l'autre devant le tribunal d'Allah pour avoir quelque chose. Et ça, c'est terrible. Un, le mari pourrait réclamer son haq devant Allah, mon épouse m'a manqué de respect à tel moment. Ou l'épouse dit, mon mari ne m'a pas donné mon droit, mon haq à tel moment, je réclame réparation, volm. Parce que le jour de Qiyama, chacun essaie de s'en sortir. C'est ça, mes chers frères en islam, haqiqa, décrit dans le Coran, dans des chapitres de Amma et Tasa'alun que tout le monde connaît, dans d'autres chapitres, et expliqué avec beaucoup plus, encore plus de détails dans les hadiths de le prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mes chers frères, le prophète alayhi wa sallam, lorsqu'il explique que lorsque l'homme est enterré, il n'y a plus rien, il n'y a que ses actes iman et a'mal qui restent. Et quand la personne est ressuscitée, il n'y a que iman et a'mal. Et donc, quand on passe sur le sirat, alors qu'on reçoit le livret, ce qu'on a vu il y a un mois, c'est iman et a'mal qui comptent. Ce n'est pas dit, bon, les médecins, ici, les avocats, ici, ceux qui gagnaient plus de 5000 euros, c'est là, ceux qui gagnaient 2000 euros, là, wallah, tout ça. Tu te souviens même plus. Tu as exercé telle profession pendant 25, 40 ans. Tu as fait 10 ans d'études pour ça, le-delà. Tu ne te souviens même plus, ça n'a plus d'intérêt. Et donc le critère pour passer à la sirat, qui c'est qui passe à la vitesse de l'éclair? Ce sera notre cas, nous tous, incha'Allah. Dites Amin. Allahumma waffiqna ya Allah. Ce sont les gens qui s'empressent à accomplir de bonnes actions et qui en même temps, donc, par analogie, s'éloignent, par mafhoum ou khalafa, s'éloignent du haram. Ce sont ces gens-là qui vont passer à grande vitesse, à la vitesse de la lumière, sur le sirat, sur le pont, sur le jisr. Et ensuite, et puis il explique « وَمَنْ كَانَ مُتَبَاطِئًا كَانَ مُتَبَاطِئًا » Elle dit que celui qui faisait les actions mais avec un peu de paresse, qui n'était pas motivé pour faire de bonnes actions, il va traverser, mais très lentement, avec difficulté. Et dans ces étapes-là, mes chers frères, la moindre seconde de difficulté, c'est un azab terrible. La moindre seconde de difficulté, c'est un monde de difficultés. C'est un monde de torture. Rien à voir avec les difficultés de ce dunya. وَمَنْ كَانَ قَدْ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا وَلَمْ يَعْفُ اللَّهُ عَنْهُ. La suite, il dit que les personnes qui faisaient des bonnes actions, mais qui faisaient des péchés, et qui n'avaient pas demandé pardon pour ces péchés, ce seront les personnes qui vont trébucher, et qui auront des difficultés, et qui vont tomber dans l'enfer. Comprenez que quand on est à cette étape, c'est que le hisab est terminé. Et si au moment du hisab, la personne n'a pas eu le afou, le maghfira de la part d'Allah, ça veut dire qu'il s'engage sur le sirat avec des péchés. Et est-ce qu'on peut entrer dans le jannah avec ça? Non. Est-ce que quelqu'un peut entrer dans le jannah avec zina, consommation de l'argent haram, l'intérêt, consommation d'alcool, consommation de drogue, désobéissance, manque de respect envers les parents? Est-ce qu'avec ces péchés greffés de l'hissab, de les actions, on peut entrer dans le jannah, un endroit aussi pur? Abadan. On verra la semaine prochaine que après le sirat, il y a une autre étape concernant les rancunes. Ça, c'est terrible. La personne croit qu'il a terminé, mais il reste les rancunes, le tort que tu as fait à ton prochain. Ribat, bohtan, médisance, calomnie, colporter, qila waqal, insulte, humilier la personne, faire circuler de fausses rumeurs, de mauvaises nouvelles, de mauvaises paroles pour humilier la personne, pour le déshonorer, et ainsi de suite. Ça, ça ne pardonne pas. Parce qu'on n'entre pas dans le Jannah avec un pourcentage de saleté dans le cœur, un pourcentage de jalousie ou de méchanceté. N'en parlons pas des péchés concrets, réels, a'mal, jawarih, des péchés qui sont accomplis avec les actions, avec les membres. Le Jannah n'accepte pas ce genre d'impureté. Donc les personnes qui s'engagent, qu'Allah nous protège, sur le sirat avec des péchés, ce sont ces personnes qui tomberont dans le Jahannam, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on voit que les ulama al-aqidah, rahimahumullah, maintenant qu'on a compris un petit peu c'est comment ça se passe le sirat, lorsqu'ils disent que وَهَذَا sirat, ça c'est des charhs, hein, c'est pas hadith, وَهَذَا sirat لَا يَمُرُّ عَلَيْهِ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ فَقَطْ. Les seuls qui vont traverser le pont, ce sont les croyants, les mu'mines. Parce que les kuffars, ils auront déjà été jetés dans le Jahannam, dans l'enfer. C'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle? Réfléchissez. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de savoir que c'est que les mu'mines qui passent le sirat ou c'est une mauvaise nouvelle? Ou enfin, on ne dit pas une mauvaise nouvelle, c'est Allah qui a décidé comme ça. C'est préoccupant. Quelqu'un a une idée? Personne ne s'engage. Moi, je vous dis que c'est préoccupant, c'est inquiétant. Parce que nous savons pertinemment que parmi les gens qui traversent, il y en a qui tombent. Si on nous disait que les koufars aussi vont traverser, on se dit que peut-être c'est eux qui vont tomber. Ceux qui n'ont pas cru en Allah et son prophète, eux ils vont tomber. Mais nous, même si on a un petit peu de iman, on va traverser. Ben non, les choses ne sont pas comme ça. Souvent quand vous passez sur le sirat, là, c'est la dernière étape avant le Jannah. Le Jannah qu'Allah Rabbul Izzah a construit lui-même, de ses mains, kama yaliqu bihi azza wa jal. Ce qu'il y a de plus beau, de plus pur, ce qui est réservé aux muttaqin. C'est-à-dire que là, de cette dernière étape, là, il ne jouait plus, là, maman. Il ne pardonne plus, là. Là, soit tu as déjà eu ton pardon dans le dunya, ou en demandant pardon, ou Allah t'a éprouvé, maladie ou problème, ibtila, et Allah t'a purifié. Quelqu'un qui est malade, ce n'est pas une purification permanente des péchés. Quelqu'un qui a un enfant, qui a un membre de la famille qui est malade et qui l'affecte, est-ce que ce n'est pas une purification journalière? Je ne dis pas parfois, yom ba'da yom, jour après jour, tes péchés sont effacés parce qu'Allah, Rabbul Izza, dans sa sagesse, t'a éprouvé de cette façon. Mais celui qui n'a eu ni ibtila, qui n'a pas demandé pardon, qui n'a pas obtenu le pardon d'Allah, Azza wa Jal, et que le jour de Qiyama, Allah ne l'a pas pardonné également de l'étape du hisab, contrairement à d'autres qui ont eu hisab en yassira. Non, lui, il n'a pas eu hisab en yassira. Ce qui veut dire qu'il s'engage sur le sirat avec les péchés, et il ne pourra pas, comme on le dit, entrer dans le Jannah avec ses péchés, donc il va tomber dans le Jahannam, qu'Allah nous protège. Pour ça, mes chers frères, demandons pardon à Allah maintenant de ce dunya. Faisons en sorte que lorsque nos proches vont nous enterrer, nos proches vont nous enterrer à quel âge? À quel âge, en général? Hein? 60? Quelqu'un d'autre, à quel âge on va être enterré normalement? Il n'y a pas d'âge fixe. On ne peut pas dire que c'est 60 ou c'est 40. Yari, tu sors de la masjid, Allah protège, t'arrive quelque chose, on meurt à 18 ans. Moi j'ai des amis, des camarades avec qui, mashallah, on s'asseyait, on apprenait le ilm ensemble, on avait 16 ans, 15 ans, 16 ans. Je suis parti faire mes études, je suis al-Madina, al-Munawwara, en train de faire mes études. J'ai la nouvelle qu'il est mort dans un accident de voiture, il avait 17 ou 18 ans. Un jeune ami de Saint-Denis. On meurt à 18 ans, on meurt à 15 ans, on meurt à 25 ans, on meurt. Ça, il n'y a pas d'âge, on ne sait pas. Mais faisons en sorte que d'être prêt à n'importe quel moment. Si je vous dis que l'ange de la mort nous attend là, à l'extérieur, et qu'il demande l'autorisation pour entrer, ce qui n'a aucun sens, hein. Aucun homme ne peut savoir, un, et deuxièmement, il ne demande pas l'autorisation pour entrer, hein. Allez, rendons-toi, allez. On peut amener la bring, on peut amener la loi, il garde pas personne. Il vient, il trappe, il ça va. Comment il attrape? Allah seul le sait. Il est capable de prendre 1 million de rouh en une fraction de seconde, 4 points cardinaux. C'est quoi la force qu'Allah a donnée à ses anges? Quelle est la puissance d'Allah? Allah. Et donc, si on dit que l'ange de la mort est là, sous la forme d'un homme, c'est notre frère qui est assis au fond. Imaginons. C'est pas ça, hein? Et qu'à un moment donné, il s'approche de nous et il dit salam alaikum, comme l'ange Jibril. Parce que, qu'est-ce qu'on étudie depuis un an, là? Hadith Jibril. Il était venu voir le prophète sallam sous l'apparence d'un homme. Il a parlé, il a fait ce qu'il devait faire, il est parti. Imaginez que l'ange Jibril, c'est notre frère au fond, et après il s'approche, il dit que voilà, je suis chargé de prendre l'âme, le ruh de 10 personnes. Obligatoirement. C'est vraiment fictif, hein. Soit vous portez volontaire, soit je prends. Là, je vous dis que bon, maman, il y a un tracas là. Moi, quelqu'un, t'as là, moi, il m'a fait déjà demain, il ferme la zone dedans, il court. Non. Quatre figures. Qui c'est qui se dit qu'il a la main? Moustaïd, prêt. Qui est prêt? Qui est prêt à répondre aux questions de la tombe? Qui est prêt à ressusciter, à recevoir son livret de compte? Qui est prêt à voir ses amal peser maintenant? Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas des péchés encore de ton livret que t'as pas demandé, pour lequel tu n'as pas demandé pardon? Faut pas se dire que ah, les cousins tali, il explique à nous vertus 10 del Hijja. Il nous a expliqué les vertus du jeûne de Ashura. Nous les clean. Nous n'avons plus rien, casier judiciaire et vierge. Non, ya ikhwani. Ijma' des savants sur le fait que les péchés qui sont pardonnés, ce sont toujours les sara'ir, les petits péchés. Les kaba'ir, l'adultère et ainsi de suite, le riba et tout ça, les péchés majeurs ne sont pas pardonnés par ce genre d'action. Les péchés majeurs, Allahu A'lam, sont pardonnés par le tawbatun nasuha, le repentir sincère qui implique les remords, la prise de conscience et la décision ferme de ne plus jamais recommencer. C'est-à-dire, quand tu es sincère de ton tawbah, c'est que vraiment tu as regretté et tu as décidé de ne plus jamais recommencer. Et Allah, il connaît. Et Allah, c'est le seul qui connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Allah, Rabbul Izzah, c'est le seul qui connaît qui est sincère. De celui qui demande pardon à moitié, il a déjà préparé son futur plan de péché. Allah connaît. Donc, à ce moment-là, hein, là on est à quelle heure là? Là, on est le 10 novembre à 20h52. Est-ce que chacun parmi nous, on est sûr qu'on n'a pas de péché dans notre livret de compte? Personne n'est prêt. Mes chers frères, quand je dis personne, mais personne n'est prêt. Le prophète, alayhi salat wa salam, demandait tawbah, istighfar, combien de fois par jour? Au minimum, 100 fois. Ben, c'est juste pour savoir, hein, qui parmi les personnes présentes ont déjà demandé istighfar 100 fois depuis ce matin? Juste lever le doigt. Allah Akbar, qu'Allah accepte. Mais quand le prophète, alayhi salat wa salam, il lit 100 fois astaghfirullah. C'est pas, je parle pas pour notre cher, notre tonton, hein, c'est général. C'est pas comme nous, astaghfirullah, 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 statut WhatsApp, astaghfirullah, statut Facebook, astaghfirullah, Tebouk, la tweet ça, astaghfirullah, astaghfirullah, au Tebouk, équipe de France, là, les blessés, ils s'appellent l'autre mamaïla qui est en espoir que la moukate le joue à suivre. Il appelle à l'ité, ah, elle est pas vraie. Ça, c'est notre estirfar. Notre estirfar. Et ça, c'est partout pareil, hein. Quand je vois des jeunes des étudiants, hein, quand on était à Madina, saoudiens et tout, avec leur sabaha, comme on dit, le tasbih, c'est plus le style. C'est un style, tac tac, c'est un tasbih avec, qui coûte, subhanallah, 300 ou 400 riyals avec des pierres presque précieuses et tout. Il tourne ça, il marche, tac tac. Au cas qu'il la boucle, fait un bon pédicard. On ne juge pas, hein, mais c'est stylé. Vous voyez, tant que. Mais c'est pas ça, istighfar. Je ne parle pas pour un peuple particulier. Mais un moment. C'est pour ça que certains savants disent, hatta. C'est-à-dire l'istighfar que nous faisons là, le staghfirullah que nous prononçons, on le fait avec un tel manque de respect, un manque de considération que même pour ça, il faut demander pardon. Ce istighfar nécessite istighfar. Ça nous ça va, maman. Ou ça nous l'est. C'est toute la différence entre nous les sahaba. Quand sahaba il dit staghfirullah, c'est que vraiment il sait c'est qui est Allah. Il connaît la grandeur d'Allah, il connaît la lourdeur, la gravité de ses péchés, les conséquences. Et quand il dit astaghfirullah, c'est vraiment qu'il se livre à Allah. Et il attend que qu'Allah Rabbul Izzah lui tend, en une expression, lui tend les mains pour qu'il soit pardonné de ses péchés. Vraiment ressentir le istighfar. Mes chers frères, mais au moins on le fait, au moins on le demande, au moins 100 fois par jour. Parce que l'ange de la mort peut venir à n'importe quel moment. C'est ça la grande question. Je dois être capable de remettre en cause, de remettre en question. Quand j'apprends comment il sirat, comment les gens vont le franchir, qui sont les gens qui vont le franchir avec facilité, qui sont ceux qui vont le franchir avec difficulté, quelle est la leçon qui se dégage au-delà de connaître. Le but, ce n'est pas de connaître. Le but, c'est de savoir comment mettre en pratique. Quand je vous parle de salat, de saum, de dhikr, vous pouvez mettre en pratique de quelle façon ? En accomplissant l'action tout de suite. Ok ? Mais quand on parle de salat, vous allez mettre en pratique comment ? Vous allez commencer à entraîner au marche sur un fil ? Non ! Comment est-ce qu'on s'entraîne ? Comment est-ce qu'on met en pratique ce qu'on apprend sur le salat ? On essaie d'avoir les qualités de ceux qui vont traverser le salat à la vitesse de l'éclair. Il y a les gens qui s'empressent à faire de bonnes œuvres. Dès quand ils ont une opportunité, subhanallah, tout de suite ils le font. Vous vous réveillez dans la nuit, il est 3h15. Au lieu de vous retourner, de vous rendormir, tout dit Allah Akbar. Ça, c'est un cadeau de la part d'Allah, ça. Mes yeux s'ouvrent à 3h15 du matin. Immédiatement, je me lève, je fais mes ablutions et je fais deux. Pas dire, on fait 12, bye. Deux unités de prière. Qayam al-layl, tahajjud. Je lève, je me dis, Allah, tawba, oh Allah, tawba, pardon pour mes péchés. Ça, c'est ce qu'on appelle s'empresser de l'accomplissement des bonnes œuvres. Vous voyez quelqu'un qui est un peu en difficulté, quelqu'un qui, vous voyez, on sent qu'il est un peu démuni et tout, tout de suite, vous allez l'aider. Même si vous n'avez pas d'argent, c'est ça la plus belle des sadaqas. Quand vous n'avez rien, quand on est arrivé le 27 du mois, là du Dieu, là, qu'on connaît sa lève vers le 29, et que finalement, 26, 27, ou Fujidea, n'a plus poulet, n'a plus poisson, n'a plus rien, n'a plus bœuf. La pire, il dit, ah là, là, il commence, tiens, ben une vieille boîte le thon, ben une vieille boîte sardine robée et tout. La crise. Mais dans ces moments-là, là, c'est quand on commence, on prend un petit-déj le matin, qu'on coupe le morceau de pain, on dit, ben, Mira l'a anti, au moins, il y a un morceau de pain pour asseoir. Il y a des gens qui connaissent de telles difficultés à la fin du mois. Mais dans ces moments-là, vous voyez quelqu'un qui est en difficulté, tu dis, viens manger à la maison. Il n'y a pas grand-chose, mais mange ce qu'Allah m'a donné. Il y aura baraka dedans. Allah. Ça, il y a un verset. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Ça, c'est l'histoire de Sahaba qui avait accueilli un invité du Prophète sallam. Il n'avait pas assez à manger. Vous savez l'histoire, il a éteint la lumière, fait croire que la lampe ne marche pas pour que l'invité mange. Et lui, il fait des bruits, comme s'il est en train de manger. Il fait croire que les enfants, ils ont déjà mangé, ils dorment. Moi, je suis en train de manger avec toi, ainsi de suite, pour que l'invité ait le ventre plein. Ils sont eux-mêmes dans ta clive, dans ta difficulté, mais malgré ça, ils viennent en aide à leur frère en islam, parce que ça, c'est mon frère en islam. Et j'ai des hasanats à obtenir par le biais de cette personne. Ça, c'est les gens qui s'empressent à accomplir de bonnes actions. Nous, comment on s'empresse quand on voit quelqu'un en difficulté, on marche vite. Plus vite que lui, on n'a pas le temps de venir demander. C'est pas comme ça, s'empresser. Ça, c'est s'empresser de fuir les opportunités qu'Allah Azza wa Jalla nous donne. Et Allah nous pardonne. Nous, on a chacun en tête des situations où quelqu'un était venu nous voir, on a hésité et on n'a pas donné. C'est ça qui reste dans la tête. Quand on a donné, là, on oublie ça. On oublie parce qu'il vient, khalas, il rentre dans ton livret de hasanat et ça, il reste là jusqu'au qiyam, inshallah, et tu le vois dans la balance. Mais quand tu n'as pas donné, là, c'est un remords parce que tu sais que là, tu as gaffé. Moi-même, j'ai ce souvenir de cette personne. Quelqu'un qui m'a agacé un petit peu, ce qu'il demandait tout le temps. Il vient me dire que voilà, sa montre est cassée, il est parti réparer et tout. Je me suis dit que bon, ma pomme monte déjà. Okay? Et puis il m'a dit, bon, c'est peut-être un peu futile, c'est pas quelqu'un a besoin de manger. Et j'avais pas d'argent, effectivement. On aurait pu aller chercher. Allez, il y a un guichet. Et puis j'étais pressé, il y avait des choses à faire. Bref, jusqu'à maintenant, j'ai des remords. Jusqu'à maintenant, ça date de 2 semaines ou 3 semaines. Il me dit que Allah a ouvert une porte pour moi, j'ai pas eu tawfiq de le faire. C'est ça les vrais remords. Quand Allah nous donne une opportunité, il faut le prendre. Ça s'appelle al-musara'a fil khayrat, s'empresser d'accomplir de bonnes actions. Donc, à partir de ce moment, je dois avoir deux réactions. Essayer de guetter le moindre opportunité pour faire de bonnes œuvres et le faire. Vous avez 10 minutes avant la salah, plutôt que de parler. Allah Akbar, combien de nos frères, sans critiquer personne, combien de personnes parlent. Des fois, je les écoute, je ne comprends pas bien sûr, mais je me dis, mais il y a combien de choses comme ça à raconter? Mais il n'a pas fini de dire tout. Mais il est incroyable ça. Même l'Assemblée nationale, les députés ne parlent pas autant. Il y a tajdid, ma'loumat, c'est comme s'ils ont une connexion 100 mégas, qu'ils reçoivent les infos directes. Ils disent, voilà, c'est arrivé ça en Australie, en Afrique, en Amérique, et ainsi de suite, dans l'an 2010, soit comme ça. Les gens, ils parlent, sans critiquer, hein, mais je me dis que faites passer le message à ses frères. Plutôt que d'être mal poli avec eux, dire que rentrez, arrête de causer, la fait des ordres. Moi, j'aime pas trop ça aussi. Il faut pas casser le cœur d'un frère en islam. Il est venu à la masjid pour l'adoration d'Allah. Il a des sifat en lui, il a des qualités. Sinon, il ne serait pas ici. Il serait en train de boire la bière là-bas, comme Allah Musta'an, comme c'est le cas de beaucoup de nos frères en islam. Permettez-moi, je reviens à cette histoire de bassin où on fait vos zous, enfin, l'endroit où on fait vos zous. Petite anecdote, hein, ça c'est une élève qui m'a raconté. Peut-être le frère ou le papa est là. Il m'a raconté, il m'a dit que. Et puis il m'a raconté en comment, c'est encore plus beau. Il m'a dit que voilà, on était super marché avec maman. On a vu une dame, excusez-moi de le dire, hein, je le dis, une dame comorienne, qui était en train d'acheter de la viande. Une femme créole est venue, parce qu'elle ne parlait pas trop français, est venue me dire, moi et ma maman, c'est l'élève qui me dit, hein, l'élève de classe 9, venue me dire que, va dire que cette dame comorienne, que la viande qu'elle est en train d'acheter là, ça c'est la viande que vous mangez, pas vous. Elle s'est trompée là, ça c'est pas bœuf, ça c'est du cochon, c'est du porc. Alors la maman, c'est une maman d'élève, quelqu'un, mashallah, respectueuse, soucieux pour ses enfants, partit voir la personne expliquant en comorien que ça c'est. Il m'a dit comment on dit cochon, c'est porc en comorien, j'ai oublié. Il m'a dit que ça c'est pas bon, ça, il faut pas manger. Elle a dit, je sais que c'est pas bon, il faut pas manger, mais c'est moins cher, c'est moins cher. Et elle a prié. Ça m'a déchiré. Depuis là-haut jusqu'à là. Ça m'a déchiré. Ça m'a fendu le cœur en deux. Parce qu'elle l'a dit clairement, sans hésitation. Hein. Moi, elle m'est arrivée avec une dame comorienne une fois à la caisse de Carrefour. Je me rappelle bien. Elle avait des saucisses de poulet. C'était pas porc. Hein. Je lui ai dit, je ne connais pas la personne, mais j'ai dit que je ne pouvais pas laisser ça passer. J'ai dit, ma chère soeur, ça, là, ces saucisses de poulet, mais ça, c'est pas halal. Tu as la même chose au rayon avec le label Halal Réunion. Va changer. Wallahi, tout de suite, elle a dit, merci, il faut me dire, je ne connaissais pas. Elle est partie, elle a changé. Elle a dit, mais subhanallah. Ça, c'est la réaction de la mu'mina, la croyante. Peut-être qu'il ne connaît pas. Peut-être la personne ne connaît pas distingué. Il faut connaître ça. Quel est le label, et ainsi de suite. C'est pas simple. Mais cette dame-là, Wallah Musta'an, elle a dit clairement, je sais que ça, c'est pas bon. C'est pas qu'elle est jahila, non. C'est pas qu'elle est ignorante, elle ne connaît pas le halal, le haram. Non. Qui c'est qui ne connaît pas le haram, ce genre de haram? Tout le monde connaît. Un enfant, il connaît. Bref. La personne, c'est pas qu'elle est ignorante. Elle a dit clairement, je sais qu'est-ce que j'achète. Je sais que ça, c'est du porc. Mais c'est moins cher que le bœuf. Donc, j'achète parce que je n'ai pas beaucoup de moyens. Ahwal. Situation de la Oumma, mes chers frères en islam. On parle de Saint-Denis, là. On parle pas dans tel endroit reculé où il n'y a pas de masjid, où il n'y a pas de madrasa, où c'est un petit village, où il n'y a pas de musulmans. Non, ça c'est notre qaum, ça c'est nos frères et sœurs en islam. Je ne vous parle pas de ces gens que moi je vois quand j'étais au Moufia à Leader Price, pas comment ils t'appellent avant, ils t'appellent Dia. Ils viennent, ils sortent, la masjid est là-haut. Eux ils sont là, ils sortent avec des caisses de bière de dos. Musulmans, qu'est-ce qui fait mal? Et c'est toutes les communautés, hein. Chez comme on dit, les Arabes, les Indiens aussi, tous ces jeunes qui vont en boîte de nuit. Alors eux, c'est une autre manière de pêcher. Ben, on a l'argent. Non. Donc, ils vont en boîte de nuit, champagne qui coule à flot, ainsi de suite. On connaît les retours. On connaît les retours avec les gens qui ont fait Taouba. Ils disent, voilà, on faisait comme ça. Ils disent, moi, quand j'étais Sarah, j'étais réservé une table avec la bouteille de champagne et les filles qui rêvent de venir à ma table. Parce qu'avoir une table avec champagne en boîte de nuit, c'est que vous, ah, c'est quelqu'un. Ah, c'est pas n'importe qui. Vous n'avez pas le glam du matin à nous regarder. Non, c'est vraiment quelqu'un qui n'en a dans la poche. Il raconte, j'ai des amis, de bons amis qui ont fait Taouba et ils expliquent comment c'était Ahwal. Donc, toutes les communautés sont touchées par ces fléaux. Bref, je reviens. Qu'Allah donne hidayah à nos frères et soeurs et nous protège nos enfants. Personne n'est épargné. Personne n'est capable de dire, moi je m'appelle un tel, dans ma famille, personne n'a jamais fait ça, personne ne le fera. Ah, Yahri, tu ne sais pas. tu ne sais pas ce qui se passe. Au-delà des murs du collège, du lycée, les fitnas, comment nos enfants sont appelés vers le haram. Afwaja, Allah les protège. Allah seul peut les protéger. Allah seul peut les protéger. Ils n'ont que Allah pour les protéger. Je peux être le meilleur papa, la meilleure maman. Je vais prendre soin, je vais l'enseigner jusqu'au portail. Je le lâche, je le récupère au portail avec parole de dîne, je le lâche. Avec parole de dîne, je le récupère. Ce qui se passe dedans, il n'y a que Allah qui peut le protéger. Donc on voit nos jeunes frères en islam là, qui viennent à Salah, ils sont là, mashallah, 20 minutes avant, en train de discuter. Quelle aurait été la réaction de celui qui fait Moussara fil khayrat, qui s'empresse d'accomplir les bonnes actions? T'as fini ton boudou? La salat c'est à 20h, il est 19h40, il arrive, viens vite dans la masjid, ouvre le mushaf, ouvre le Coran, lis. Ou alors lis 100 fois subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya akhi, apprends le seyd ou l'istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana 'abduka wa ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'. Jusqu'à la fin, c'est le plus grand mais le meilleur, la plus belle formule pour demander pardon à Allah. Ya akhi, استغل وقتك, profite de ton temps. Tu as un quart d'heure, ce 15 minutes là, c'est peut-être ça qui te fait accéder au Jannah. C'est peut-être ces 15 minutes cumulées pendant une semaine, deux semaines, deux ans, trois ans, qui feront que ta balance, elle pèsera lourd pour toi le jour de Qiyama. Elle t'emmènera direct dans le Jannah bighayr hisab. Qui te fera obtenir hisab et yassira. Non, tu as préféré perdre ton temps. Celui qui s'empresse de faire des bonnes actions. Nous, on doit essayer d'avoir cette qualité. Chaque fois qu'il y a une ouverture, on essaie de faire des bonnes actions. Et chaque fois qu'il y a une ouverture du mal, on le ferme. On fait en sorte de ne même pas mettre un pied. Pas dit, mais essaye. Zamal, just do it. Just test it. Nous regarde, au moins, ne me mens pas bête. Il ne pourra pas dire que, ouais, ben, m'a pas. Non, regarde, et puis, pour que je sois convaincu que c'est quelque chose de pas bon. Qui te dit que ton iman est assez solide pour rentrer dans l'impureté pour en ressortir indemne? Qu'Allah nous protège. Donc quand on voit des portes de péché qui s'ouvrent, nous sommes les premiers à les fermer. Ça, c'est les qualités de ceux qui sont moussara'a, qui s'empressent de faire des bonnes actions. Donc ce sont les qualités que je dois essayer de travailler à partir de maintenant pour qu'Inch'Allah, lorsque je passe le salat, Inch'Allah, je passe avec facilité. Et la deuxième action que je dois mettre en pratique dès maintenant, istighfar. 100 fois istighfar par jour. Chers frères, quand on quitte la masjid, en arrivant à la maison, il y a au moins, au minimum, 10 minutes pour marcher. Sauf celui qui habite juste en face. 10 minutes, tu peux faire 100 fois istighfar facilement. Tu peux lire Tabarak al-Ladhi al-Mulk, Suratul Mulk, tous les soirs avant de dormir. Comment? De la masjid jusqu'à ta maison. Ça se lit vite, parfois en montant les escaliers. Prends pas l'ascenseur, sois bon pour la santé. Monte les escaliers, lis al-Mulk. Tous les soirs avant de dormir. Tout ça, ce sont des actions que je dois essayer de faire. Et le maximum de istighfar. Je pense qu'on a dit à peu près tout. Enfin, pas à peu près tout, mais les points qu'on devait citer. Et là, quand vous voyez ces gens qui travaillent sur la... Dites-moi, qui est celui qui a réussi? Le riche? L'homme célèbre? L'homme qui était en première page des journaux, des magazines People? Là, wallah, lui, il est tellement loin. On ne sait même plus c'est qui. C'est-à-dire que lui, il ne vient même pas jouer hein, sur ce rat. Il ne m'aille pas, t'es là. Lui, depuis là-bas, là, il a fini mettre le jahannam, sallallahu alayhi wa sallam. S'il est mort sur ses péchés, bien sûr. Et Allah de la guider, nous demande Allah de la guider pour tout le monde, inshallah. Celui qui réussit, c'est celui qui a eu iman et qui a accompli de bonnes actions et qui a demandé beaucoup d'istighfar à un tel point que quand il se présente devant le salat, il n'y a plus de péché. Qu'Allah Rabbul Izza nous accorde ces qualités, nous permette de faire beaucoup de bonnes actions, nous permet de demander pardon pour nos péchés. Qu'Allah Rabbul Izza ouvre pour nous les portes des hasanat, des bonnes actions et ferme toutes les portes des péchés, des sayyi'at, que nous ne soyons même pas tentés par les péchés, que le péché ne s'approche pas de nous-mêmes, que le péché ne s'approche pas de nous, que nous pouvons nous en éloigner, nous pouvons, inshallah, les éviter, et que le jour de Qiyama, on franchit le sirat à la vitesse de l'éclair, après avoir bu du bassin de Kawthar, pour entrer dans le Jannah, le paradis qu'Allah Azza wa Jal nous a réservé. On m'a tawfiqi illa billah, qu'Allah nous accepte. Allahumma amin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. On était un petit peu long ce soir, mais on va dire que demain c'est férié aussi. On est off, inshallah. Qu'Allah, par ce sacrifice, nous donne ses qualités. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen, wa alhamdulillahi rabbil alameen. Jazakum khair.